Conférence privée par le père Philippe à Rimont le 29 janvier 1988.
Nous étions arrivés à ce grand mystère des trompettes. Alors je reprends avec vous pour essayer de pénétrer un peu dans ce mystère de l'exécution. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Les sceaux avec le livre de vie. C'est le mystère de la prédestination. Et je crois que c'est très important de comprendre ces sept niveaux de la prédestination, qui sont comme, si vous voulez, les sept grands niveaux qui nous permettraient de faire toute une théologie de l'économie divine. Vous voyez que le premier et le dernier se tiennent. Je crois que le premier et le dernier sont positifs. C'est le mystère de la grâce. C'est bien l'évangile d'aujourd'hui, du reste. Vous voyez, quand Jésus parle du royaume de Dieu et qui donne cet exemple extraordinaire. Jour et nuit, ça pousse. S'aperçoit pas. On s'aperçoit de tout ce qui ne va pas. Et c'est là où on voit très bien combien la psychologie conduit au désespoir. Parce que la grâce nous demande ce dépassement complet au-delà de tout ce que nous pouvons voir de fêlures en nous. Alors si on met tout le temps devant nous toutes ces fêlures, c'est affolant. Il y a de quoi se pendre à la fin de la journée. Ces fêlures. Et c'est ce que montre la psychologie, ça. Tandis que la grâce, elle continue à pousser. Et on ne la voit pas. Mystère d'amour. Mystère caché. Les catacombes que nous portons tous en nous. Parce que c'est bien ça, c'est le mystère des catacombes. Donc, le point de départ et le terme, c'est Dieu directement. C'est pour ça que je crois bien que le cheval blanc est l'arc. L'arc dans le ciel. Il ne revenait pas dans le ciel pour le cheval blanc qui est en nous, parce qu'on est encore sur la terre. Mais au terme, c'est l'arc dans le ciel. Je crois qu'il y a ça. Puis alors les autres, c'est toutes les luttes. Toutes les luttes jusque cet aspect très très mystérieux du cinquième sceau. On a l'impression qu'il y a une tentation pour tous. Une tentation de considérer que Dieu devrait sur la terre réaliser une œuvre de justice. Évidemment, on se met du bon côté. Et que Dieu devrait quand même punir les méchants. Vraiment, Dieu est trop bon. C'est ça le cinquième sceau. On a une tentation terrible. Jusqu'à quand, maître, maître saint et véridique, ne juges-tu pas et ne te venges-tu pas? Et ne venges-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre? Et alors la réponse de Dieu est extraordinaire. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués, tout comme eux. C'est une consolation merveilleuse. C'est pour pacifier, vous voyez, la patience. Dieu leur donne la robe blanche. C'est la victoire. savoir qu'il y a une victoire qui est remportée. Et Dieu ne veut pas sur la terre exercer sa justice. Il nous demande d'avoir ce même regard de patience, comme c'est difficile. On sent très bien cette espèce de tentation qui vient de nous. On a lutté victorieusement. On a été un peu victorieux grâce à Dieu, mais on voit surtout que c'est nous. C'est évident, surtout que c'est nous quand même. On n'est pas si mal. On est vertueux, on acquiert des... On a quand même quelque chose de bien. Parce qu'il dit, hein, cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. C'est pas si mal d'être égorgé à cause de la parole de Dieu. On en tire un peu de gloire. La partie de ces martyrs pour la parole de Dieu. C'est pas le vrai martyr, hein. Mais c'est quand même bien. On est du bon côté. On a été fidèles pendant un certain temps. Et on voudrait quand même, hein. Ils crièrent d'une voix forte. Jusqu'à quand, maître saint véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang? C'est extraordinaire, ça. Mais c'est le cri, j'allais dire, d'un certain pharisaïsme chrétien. Très bien. Et il supplie Dieu, il se met à la place de Dieu, de réaliser la justice. Donc, le cinquième saut, vous voyez, c'est une sorte de patience, de dépasser tout ce qu'on voit d'iniquité dans le monde et autour de nous. Et on voudrait tellement que les choses soient plus nettes. Mais quand on dit, oh, le Saint-Père, quand même, il laisse des évêques en place qui ne devraient pas être là. J'ai entendu ça combien de fois. S'il est si bien, le pape, mais quand même, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, il n'y a pas que le pape, il y a tous les autres. Le Saint-Père est entré dans une très grande patience depuis qu'il a été égorgé. Il montre bien ça. Et quand dans notre vie on a été égorgé, d'une façon ou d'une autre, hein, symboliquement ou de façon réelle, on a une très grande patience après. Parce que Dieu nous égorge pour qu'on soit patient. Il permet ça, d'être martyr à cause de la parole de Dieu. Alors, ça prépare le sixième saut. Les grandes luttes. On y est. Sixième saut. Ça, c'est sûr. On y est pour tous et pour chacun d'entre nous, plus ou moins. On y est assez vite, parce que tout va vite maintenant. Et les autres sauts se maintiennent, vous comprenez? Faut pas dire, mais on est que sixième saut. Mais non. Le premier demeure, puisqu'autrement, il n'y aurait pas la victoire. Il n'y aurait pas la promesse de la victoire. Il n'y aurait pas, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que c'est le premier. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le cheval blanc, on ne peut rien faire. Sans l'arc-en-ciel, on ne peut rien faire. Mais il y a le cheval rouge-feu, il y a le cheval verdâtre, il y a le cheval noir. Vous le rencontrez de temps en temps. Puis, cinquième saut, sixième saut, la grande, grande bataille. C'est l'angoisse, oui, toujours. Dans l'écriture, c'est l'angoisse qui annonce le terme. C'est pas la guerre, c'est l'angoisse. On voit très bien, si on est un tout petit peu lucide vis-à-vis de sa vie, Saint Jean était un vieillard, hein, quand il a reçu cette révélation. Je suis persuadé qu'il a compris tout. Ces luttes, existe très vite, hein, les 7 sauts. Je crois qu'il ne faut pas voir la juxtaposition. Je crois qu'ils sont toujours présents, les 7. Toujours. On est des victorieux. On est un peu dans le ciel. Un peu. On émerge de temps en temps. Puis alors, il y a les 3 sauts qu'on porte toujours en nous. Les 3 chevaux qu'on porte toujours en nous. Les concupiscences. Puis il y a des moments de... Puis des moments de grande bagarre. Jusqu'au jour, la grande bagarre prendra tout. Selon l'Apocalypse, c'est net. Le Christ reviendra après une grande bagarre. Exactement comme la dernière semaine dans Saint Jean, c'est la semaine de la plus grande lutte. Jésus a vécu, l'Église doit le vivre. Donc il y aura une dernière semaine. Et nous y sommes peut-être. Peut-être. Peut-être que Vatican II nous fait entrer dans la dernière semaine. Posez-vous la question. Et le pèlerinage à Lourdes est fait pour ça. Donc il faut s'y préparer. C'est vrai, c'est très important le pèlerinage à Lourdes. Très très important. Il y a quand même quelque chose de très grand. Pas pour être nombreux, mais pas pour aller, que la Sainte Vierge soit contente. C'est pour ça. Puis alors le 7e, on sent très bien. On entre. 7e saut, on entre dans le ciel. Et entre deux, vous voyez, pour nous donner l'espérance, parce que le 6e est tellement terrible qu'il conduirait fatalement au désespoir. S'il n'y avait pas cette vision très profonde de tous les élus. Vous voyez, on voit bien que sur notre terre, la lutte a augmenté depuis la croix. Ce que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Depuis la croix, autrement dit, l'Église lutte beaucoup plus que le peuple d'Israël. C'est un des aspects qu'on devrait comprendre, ça. Le peuple d'Israël a lutté tout le temps. Mais l'Église lutte beaucoup. Et plus on s'approche du terme, plus les luttes s'intériorisent. Et donc plus les luttes augmentent en nous, ou peuvent augmenter en nous, l'angoisse. Parce que la tactique du démon, c'est de nous mettre dans le désespoir. Ça, c'est net. Nous devons maintenir une espérance, et une grande espérance. Le symbolisme des trompettes, c'est l'exécution. Dans l'exécution, tout est mêlé. Et dans l'exécution, je crois que nous ne pouvons pas discerner si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et un accident de voiture, ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas ? Un accident de voiture. L'autre jour, en allant à Tichy, ça m'est arrivé. Ça, c'était pas la faute de celui qui conduisait. C'était sur la route, heureusement qu'on n'allait pas trop vite. Il est arrivé magistralement, mémé, extraordinaire, sur le côté. On avait envie de dire, mais dépêchez-vous, quoi. Voyez pas. Non, exprès. Il attendait l'accident. Et c'était pourtant un doux. C'est peut-être pour ça qu'il allait très lentement. Mais je crois qu'il était très aviné. Alors un doux, quand il y a de l'alcool dessus, ça fait quand même quelque chose d'assez curieux. Un grand doux. Avec une grande voiture. Il est sorti de là. Tiens. Non, comme c'est le frère original qui conduisait, il y a d'autres mots qui sont sortis de sa bouche. Alors je lui dis simplement, taisez-vous, ça vaut pas la peine. Il n'y avait pas d'accident, mais c'était quand même très ennuyeux de pouvoir continuer d'être là emmoché, d'avoir un œil en œil noir, complètement emmoché. Lui, très calme, lui n'avait rien. C'était un gros tank. C'était un char énorme. Énorme. Alors, après ça, on y réfléchit, dit, est-ce que c'est le démon? Est-ce que c'est un manque de prudence? Qu'est-ce qui vient, quoi? C'est pas les bons anges, sûrement pas. Le démon voulait qu'on arrive plus tard, qu'on n'a pas beaucoup de temps de dormir, donc ça diminue encore. Qu'on soit calme et paisible, pour pas se mettre en colère, qu'on... Très bien. Tout le démon est toujours pour que l'irascible se mette en colère, qu'on se mette en colère pour rien, inutilement. Vous savez, ça, le démon est coléreux. Dans l'exercice, comme c'est difficile de déterminer si ça vient de Dieu, si ça vient du démon. Et on cherche instinctivement, alors qu'il n'y a pas à chercher, puisqu'on ne peut pas savoir. Vous voyez, quand on reçoit une tuile sur la tête, hein, c'est le grand vent. Oui, mais le grand vent, qu'est-ce qui a actionné le grand vent? Juste au bon moment, la tuile s'est détachée à ce moment-là, c'est tombé sur vous. Vous voyez, quand il y a du gel, que faites attention, et puis tout d'un coup, faites pas assez attention parce qu'il y a quelqu'un qui vous... Ça dégringole. L'autre jour, je voyais ça, c'était un novice, c'était merveilleux. Un avis paisible, très paisible, prenez, il y avait une pile énorme de... Et alors il me voit. Oh. Et tout a dégringolé. C'était merveilleux. Il avait le sourire qui éclatait, qui était. Vous voyez qu'il est heureux de me rencontrer, il portait ça. Oh, mais il dit, mais attention, je me suis précipité pour que tout ne tombe pas. Et lui, non. Alors, est-ce que c'est le démon qui donne le coup de patte? On a regardé ça dans votre vie. C'est très difficile de savoir si c'est le coup de patte du démon. Un manque de prudence. Souvent, il y a un manque de prudence et le coup de patte du démon. C'est très difficile, dans l'exercice, de discerner. Oui, dans les déterminations, on voit, mais dans l'exercice, on sait bien que les concupiscences, c'est par là que le démon agit. Les conséquences du démon, il a trois grandes trouées en nous. Concupiscence de la chair, qui durera toute notre vie, même si on est comme David. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie. Ça restera tant qu'on est sur la terre. Et le démon s'en sert. Sixième saut, c'est bien le démon, c'est sûr. Les grandes tornades. Très difficile quand il s'agit ici des trompettes. Alors relisons et puis essayons de comprendre. Ce qu'on peut être sûr, là c'est le grand principe, hein. Dieu permet aux démons un pouvoir très extraordinaire. Ça, c'est sûr. Dieu s'en sert, mais il laisse aux démons un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Pour que nous soyons dans la lutte. Et qu'à travers les luttes, nous puissions montrer davantage notre amour. Quand tout va bien, On ne sait jamais si on aime vraiment. C'est vrai ça. Vous voyez, avec des amis, quand tout va bien, on ne sait pas s'ils nous aiment vraiment. Il faut qu'il y ait la lutte et la grande lutte pour qu'à ce moment-là, dise, ah oui, je vois qu'il m'aime vraiment. Je ne croyais pas qu'il m'aimait tant. C'est dans les grandes luttes que la présence de Jésus est plus nette. L'évangile de Jean nous le montre. Les grandes affirmations de Jésus, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis, vous savez bien, du chapitre 6 au chapitre 12, les grandes présences de Jésus. Bien, je crois, chapitre 6 au chapitre 12, mettez ça les trompettes. Ça doit éclairer les trompettes. Parce que c'est les luttes. Eh bien, je crois qu'à travers les trompettes, qui sont les grandes luttes, l'exercice des grandes luttes, il y a des présences. C'est ça qui serait intéressant. Parallélisme entre les présences de Jésus au milieu des luttes. Oui, dans les luttes, l'ordre habituel est rompu. Et alors, Jésus peut intervenir d'une façon beaucoup plus directe. Jésus et Marie, puisqu'elle est quand même la reine. Alors elle peut intervenir de façon directe. Dans les grandes luttes, vous voyez, celui qui est le chef suprême et le petit dernier peuvent être l'un à côté de l'autre. Ça qui est assez extraordinaire. Et je crois que c'est pour ça que Dieu permet les luttes, c'est pour des présences. Mais c'est pour des présences beaucoup plus fortes. Vous voyez, après les tempêtes, la lumière. Ici, ça arrive assez souvent maintenant. Après les tempêtes, et la pluie pendant un certain nombre d'heures, puis tout d'un coup, le nuage disparaît, puis une lumière extraordinaire. Présence. C'est ça que je crois. Alors, on a ici, donc, du chapitre 8, verset 7, jusqu'à la fin, sixième et septième trompette, on a les grandes luttes. Dieu permet et veut ces luttes. Alors, on reprend, et puis on va essayer. Alors, comprenez bien aussi, toutes ces luttes, c'est pour ça que je dis, toutes ces luttes sont dans une liturgie. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, il leur fut donné sept trompettes. Donc, les exécutions sont bien commandées par Dieu. Mais les exécutions permettent-elles aux démons d'agir ou permettent-elles aux bons anges d'agir? Parce que le démon n'agit que si Dieu permet. Il est là toujours prêt. Perd pas de temps. Un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or. Il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Encensoir d'or, ces parfums de tous les saints, et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Et cette présence de Marie dans l'ordre de l'exécution, je crois, c'est ça qu'il nous a montré symboliquement. Dans l'ordre de l'exécution, on est enveloppé de la prière des saints. Tous. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Il le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs. Il se coucha. l'exécution est enveloppée de la prière. C'est pour ça que l'exécution elle-même, ça peut très bien venir des démons qui sont déchaînés contre les hommes. Et Dieu permet. Et les trompettes donnent ces permissions aux démons. Et tout ça est enveloppé de la prière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle, du feu, du sang. Ou du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Vous voyez, Marie jette le feu de l'autel, et je crois que le démon jette sur la terre de la grêle, du feu mêlé de sang. Et le tiers de la terre fut consumé. Et le tiers des arbres fut consumé. Et toute herbe verte fut consumée. C'est pas l'œuvre des bons anges. Hein. Et c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est les permissions que Dieu laisse aux démons. Les permissions sataniques. C'est troublant. On voit bien ça dans le livre de Job. Et vous voyez, c'est la terre. Notre premier milieu, c'est la terre. C'est le lieu premier. La terre vint au secours de la femme. C'est dit dans l'Apocalypse, nous le verrons. Et la terre, le démon aussi peut s'en servir. La terre en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, c'est sûr. Alors, elle peut servir pour nous remettre les deux pieds sur terre, le réalisme. Et elle peut aussi être le lieu de certaines attaques du démon. Tire des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. L'herbe verte, c'est le printemps, c'est reposant, c'est tout ça l'herbe verte. Alors il faut entendre ça d'une façon symbolique, hein. Non pas d'une façon réaliste, un réalisme dans le symbole, mais symbolique. La grêle, on sait très bien ce que c'est, surtout quand elle est apocalyptique. Et du feu mêlé de sang, c'est juste opposé de l'autre feu, du feu de l'autel. Le feu de l'autel, c'est l'amour. Et le feu mêlé de sang, c'est le tragique. C'est les divisions, c'est la tension. La grêle, c'est ce qui vient supprimer les petites pousses. C'est ça le symbolisme de la grêle. Ou quand la vigne commence à fleurir, quand les arbres fruitiers commencent à fleurir, la grêle détruit tout. C'est contre la fécondité. L'herbe verte, c'est aussi le symbole de ce qu'est le printemps. Et du feu mêlé de sang. Le démon vient briser l'harmonie voulue par Dieu. Il la brise par la grêle et par le feu mêlé de sang. Cette confusion entre l'amour, le feu c'est toujours l'amour, et un feu mêlé de sang, c'est un amour qui divise. Ce n'est plus le véritable amour. C'est un amour qui divise. Et la grêle, c'est quelque chose qui vient arrêter toutes les promesses. Je crois que c'est toutes les promesses qui sont arrêtées, toutes les promesses de fécondité. Le deuxième ange, je donne un symbole, il y en a plusieurs. Dites-vous bien que le langage symbolique a toujours plusieurs significations. Je crois que lorsqu'il s'agit de là, c'est toujours un premier symbole. Le symbolisme est premièrement spirituel. Parce que ce sont les attaques du démon. Vous voyez, si vous prenez matériellement, d'abord ça ne va pas très bien, un tiers, pas commode. Tandis que psychologiquement, le milieu, le démon agit sur le milieu. Alors nous avons des zones différentes de milieu. Il y a le milieu atmosphérique, sûrement qu'il agit dessus. Il y a le milieu politique, sûrement qu'il agit dessous, c'est bien évident. Il y a le milieu familial, il y a le milieu intérieur, imaginatif. Nous avons tous un petit milieu intérieur, notre petit milieu, notre lac intérieur, c'est notre imagination. Et la terre représente, je crois, ce premier milieu. Vous avez la terre au vaste flanc qui donne la stabilité. Normalement, la terre donne la stabilité. Et la terre, là, est directement attaquée par ce qui vient supprimer toutes les promesses, donc conduit au désespoir. Il brise le cœur, le feu met les sangs, dans une espèce de tension dramatique. Le sixième ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. Ça, c'est le bouleversement. On enlève l'harmonie. Il y a une harmonie entre les grandes montagnes et la mer. Et la grande montagne, brûlée par le feu, fut jetée dans la mer. La mer ne sert... C'est pas le but de la mer de recevoir les grandes montagnes qui tombent dedans. C'est pas ça. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourut. Et le tiers des bateaux fut détruit. Donc là, c'est l'attaque par rapport à l'eau. La mer et les fleuves, c'est tout ce que représente le point de vue de la vie. C'est l'aspect vie. Donc c'est beaucoup plus immanent. Tandis qu'au contraire, la terre reste extrinsèque comme milieu de stabilité. Je crois que la première chose que le démon fait, c'est de supprimer la stabilité. Plus avoir une possibilité du roc, le roc. On déstabilise. Et l'immanence de la vie, l'eau. Et cette immanence de la vie, elle est brisée de deux manières. Une grande montagne brûlée par le feu. C'est très curieux, une montagne brûlée par le feu, j'en ai jamais vu. Grande montagne brûlée par le feu. Au Sinaï brûlé par le feu. Brûlée par le feu. Vous voyez bien, ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, notre intelligence, dans son appétit de vérité, parce que c'est pas ça. Elle est brûlée par le feu. Et elle est jetée. À ce moment-là, que tout ce qui est source de vie devient du sang. Donc, tragique. Le meurtre. Le troisième ange sonna la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile. Alors ici, c'est le ciel. Oui, c'est net, hein, c'est tous les éléments qui sont là présents. La terre, l'eau, le ciel, l'air. Et c'est très curieux. Alors là, ce serait intéressant à creuser. Ce que doit apporter chaque élément. La terre, la stabilité. La mer, la vie. Troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Cette étoile, beaucoup d'hommes moururent ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. L'amertume. La vie devient amère. On a un dégoût. Dégoût. On ne peut plus s'aimer. On n'a plus de paix en soi. Et on a un dégoût de soi. Il tomba du ciel une grande étoile. Et l'un de nos étoiles est absinthe. Avec le symbolisme extraordinaire. Le Saint-Esprit, qui passe à travers l'imagination de Jean, s'en donne à cœur joie. Vous voyez ça? L'étoile absinthe. Alors ne cherchez pas des applications trop rapides comme on fait toujours. Hein. C'est symbolique comme langage. Ça, j'en suis sûr. C'est un grand symbole extraordinaire des grandes luttes. Alors, quelles sont les luttes du ciel? Le ciel représente toujours ce qui en nous est appelé à la contemplation. Le ciel, c'est le lieu de la contemplation. Comme si la contemplation était arrachée. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche. La contemplation devient comme impossible. À la place d'apporter la paix, elle donne l'amertume. Et à la place d'être comme un appel vers quelque chose qui nous permet d'aller toujours plus loin, elle apparaît comme quelque chose qui nous replie sur nous. Est-ce que l'amertume ne provient pas toujours de ce repliement sur soi ? Vous voyez l'inversion. Il y a une espèce d'inversion des symbolismes et des éléments. Très curieux. Alors c'est évident que c'est, je crois bien, la taille du démon qui se sert des éléments pour empêcher l'homme. Replier sur lui. N'oublions pas ce qui a été dit précédemment ou ce qui sera dit aussi après. Le chiffre de la bête, 666. Donc le repliement complet de l'homme sur lui. Alors je crois bien que si vous êtes attentif, voyez comment les éléments devraient progressivement nous porter vers Dieu. Là, c'est l'inverse. C'est un repliement constant. Toujours plus fort. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers et que le jour ne brilla plus. Ne brilla plus d'un tiers, plus que d'un tiers. Et la nuit pareil.
d'une voix forte, malheur, malheur. Malheur à ceux qui habitent sur la terre. Alors toujours, ceux qui habitent sur la terre, ce sont les hommes qui ont opté pour un matérialisme, qui ont opté pour un bien temporel. Malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause des autres voix de la trompette, des trois anges qui vont au son, qui vont en sonner. C'est très curieux, hein. On a l'impression que les quatre premières trompettes, c'est pour tous les hommes. Et le malheur, c'est par rapport à ceux qui ont opté une finalité terrestre. Et c'est vrai, je crois qu'il y a une espèce de correction différente. Il y a une purification, parce que c'est toujours pour une purification. Purification générale. Et le feu n'est pas présent, ou plus exactement, le feu est détourné. La grêle est du feu mêlé de sang. C'est très curieux. Et là, on voit la source du feu, le soleil. La source d'un éclat particulier du reflet, la lune et les étoiles. Je crois que de pouvoir, à travers ces trompettes, ces quatre premières trompettes, vous voyez, comme une destruction progressive que fait le démon, Dieu lui laisse cette permission. Le démon agit toujours sur notre conditionnement, jamais directement sur notre intelligence et notre volonté. Les reins et les cœurs sont réservés à Dieu. Mais le démon agit sur le conditionnement. Ça, il est très fort. Et c'est bien sur le conditionnement que nous voyons cette action du démon, le milieu dans lequel on est. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui du ciel était tombée sur la terre. Il lui donnait la clé du puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme une fumée de grande fournaise. Et le soleil et l'air furent enténébrés. Il y a un pouvoir extraordinaire du démon d'enténébrer. C'est-à-dire que les hommes ne voient plus leur route, ne voient plus la voie. Jésus qui la voit, ça disparaît. On ne voit plus. L'air fut, le soleil et l'air furent ténébrés par la fumée du puits. Ça va jusque-là. La fumée du puits, c'est... C'est l'enfer, c'est le démon. Pouvoir du démon dans ténébré. Et de la fumée sortir des sauterelles sur la terre. Ah, le symbolisme des sauterelles. Ça, on retrouve constamment les sauterelles. Il faut évidemment connaître ces pays-là pour comprendre ce que c'est que les sauterelles. Vous savez bien, les nuages de sauterelles. C'est effrayant. Ça mange tout. Ça prend tout. C'est très curieux qu'il y a comme une espèce de procession à la manière du démon, donc artificielle. Le passage de la fumée aux sauterelles. De la fumée sortir des sauterelles sur la terre. C'est une espèce de génération spontanée. Les ténèbres consenties, acceptées, qui touchent même le soleil et la lune, qui empêchent la recherche de la vérité. C'est ça la fumée. Les gens ne cherchent plus la vérité. Ils n'y croient plus. Cherche plus la vérité. Quand vous ne cherchez plus la vérité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a engendrement des sauterelles. quelqu'un ne cherche plus la vérité, c'est les sauterelles. On laisse une zone ouverte aux sauterelles. Les sauterelles dévorent toutes les petites pousses, dévorent tout le point de vue de la vie. C'est terrible. Vous voyez, si vous ne recherchez plus la vérité, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'éducation possible. Je crois que les sauterelles sur la terre, c'est empêcher l'éducation des jeunes. Et les jeunes poussent, hein, les sauterelles. C'est tout ce qui est vert, ça prend tout, ça mange tout. Il paraît que c'est effrayant quand un nuage de sauterelles t'affole. Hein. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Scorpion, piqûre à mort. Une éducation qui a la place d'aider, d'ouvrir à Dieu, c'est l'inverse. Tu crois qu'on peut voir cette espèce de procession? Vous voyez, l'anti-trinité. Le démon est terriblement anti-trinité. Donc anti-procession. Et anti-procession crée lui-même des liens artificiels. Mais des liens. Des liens qui sont tels qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et symboliquement, on avait ça pendant la guerre. On rencontrait des gens qui vous disaient « Oh, c'est inutile de continuer, vous êtes encerclés. » Cité, il fallait s'arrêter. Vous ne pouvez plus essayer de gagner du terrain, non. Psychologiquement, on est encerclé. On est comme dans l'assaut. Un peu plus. Il y a un lien entre la fumée et les sauterelles. Et les sauterelles et les scorpions. C'est curieux. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre. Il n'y a aucune verdure. Il n'y a aucun arbre, et seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il y a un espèce de secret. C'est très curieux, c'est un secret. Il leur fut dit. Il y a un secret. Qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture était comme la torture du scorpion quand il pique l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et le remords, l'angoisse, c'est ça. On est rongé de l'intérieur. Complètement rongé de l'intérieur. Alors, il faut bien voir ce secret qui fait que leur pouvoir est limité. Il est orienté. Ils ne peuvent pas nuire à l'herbe de la terre, aux verdures, ni au canard. Seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors, ils ne peuvent pas tuer, mais de l'intérieur, ils mettent dans un état tel qu'on préférait mourir. Ce serait plus simple. Et la mort fuit loin d'eux. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Alors on explique. On explique dans un symbolisme qui fait que c'est encore plus compliqué. Parce que le symbolisme des sauterelles, c'est simple. Et quand vous commencez à voir le symbolisme des sauterelles ici, alors ça devient absolument impossible. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Elles étaient semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Là, vous retrouvez les chevaux. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables de l'or. Donc ça, c'est l'orgueil. On veut être victorieux. C'est l'orgueil. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Et leurs dents étaient comme celles des lions. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas la singerie des quatre vivants? Et il y a la face d'homme qui a la même chose. Je me demande. Et leurs dents étaient comme celles des lions. C'est très curieux. La singerie des quatre vivants, c'est-à-dire le mystère de Jésus, donc le mystère de l'incarnation. Faire des alliances morbides. Il y a beaucoup de choses à cacher. C'est assez terrible de voir ce pouvoir démoniaque sur toutes les inventions de l'homme. Parce que je crois que c'est ça. Le démon crée un monde artificiel avec des connexions complètement artificielles. Et l'homme est pris là-dedans. Et c'est pour ça que c'est si invraisemblable ces connexions. Il n'y a plus rien de naturel. On essaiera de trouver. Et réfléchissez vous-même, pas pendant la nuit.